Radio Star.
Morning Edition from
NPR.
France Inter. Le 18-20.
Le fait de s'entraîner uniquement en manœuvre défensive permet de d'afficher clairement cette posture uniquement de dissuasion.
Ne s'entraîner qu'en défense pour bien montrer qu'on ne veut pas d'affrontement mais qu'on est prêt à tout. C'est un militaire qui parle, un militaire français en Lituanie avec l'OTAN. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde ou comment les pays baltes regardent leurs voisins russes avec une certaine inquiétude. Voilà, c'est un guépard que je voulais entendre, mais c'est pas grave. Il sera dans le studio. Est-ce que vous savez que les guépards ont peur des chiens, figurez-vous? On vous raconte ça dans Sous les radars. Et puis vous en saurez plus aussi sur les stratégies de pouvoir très compliquées des serveuses américaines. 18h50, Le Monde selon Trump, la saison 2 du président américain. Grégory Phillips nous emmène à Pittsburgh. Vous verrez aussi que pour draguer depuis Trump, votre couleur politique apparaît sur les applications. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers avec un tsar et un empereur ce soir. Mais avant, c'est en Syrie que nous allons. 7 ans de guerre, 7 ans d'une sale guerre, 7 ans de malheur. Mais ne pas en parler, c'est aussi banaliser. Alors allons-y, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Et c'est vrai que c'est un côté dérisoire, hein, ces anniversaires, ces jours pour jour, un peu passe-partout. Mais s'agissant de la guerre en Syrie, on a du mal à passer à côté, parce que justement, il ne faut pas passer à côté. 7 ans, donc, quasiment jour pour jour, pour une communauté internationale aussi qui est pieds et poings liés depuis ces 7 ans, qui fixe des lignes rouges, mais qui regarde le régime les piétiner l'une après l'autre. Aujourd'hui, il y a quelques chiffres qui sont tombés que je vais vous donner. L'ONU a annoncé que dans la Ghouta orientale assiégée, plus de 1000 évacuations médicale était nécessaire immédiatement, pendant que des centaines de civils fuient la ville. Et cette fois, on parle d'Afrine où ce sont les Kurdes qui sont attaqués par les Turcs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, en 7 ans, le conflit a fait 350 000 morts. Ce sont 350 000 morts identifiés, donc le chiffre réel frise et dépasse peut-être même le demi-million. Et aucun conflit n'a déplacé autant de gens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà où nous en sommes 7 ans après. Bonsoir Céline Schmitt.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. On parlera de ces réfugiés qu'on trouve un peu partout dans les pays limitrophes. On ira visiter l'un de ces camps aussi. Bonsoir Nicolas Tenzer.
Bonsoir.
Vous êtes le président fondateur du CERAP, le Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Je voudrais qu'on commence avec vous, Nicolas Tenzer. Il s'est passé des choses à New York, aux Nations Unies aujourd'hui, avec encore une fois des pays qui tapent du poing sur la table, nôtre, la France et les États-Unis aussi, pour dire il faut absolument un cessez-le-feu dans la Ghouta. Comment vous lisez ça, vous ?
Avec désespoir et consternation, parce que cela fait maintenant des années que, à l'ONU, un certain nombre d'États, dont la France, appellent à des cessez-le-feu, pressent, enjoignent, blâment, expriment leurs préoccupations, leurs très vives préoccupations. Et tout ceci ne sert à rien, parce que l'on sait très bien que s'il n'y a pas une action militaire pour arrêter les exactions du régime Assad et de la Russie, qui commet également des crimes de guerre en Syrie, rien ne se passera. Et ce sont des mots vides, ce sont des mots sans sens et qui frisent même d'une certaine manière, je dois le dire, l'indécence.
Nikki Haley, qui est l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, dit aujourd'hui les États-Unis sont prêts à agir si nous le devons. Là aussi, ce sont des mots.
Écoutez, on attend les actes. On les attend depuis combien d'années? On les attend depuis, j'allais dire, probablement 2013, en tout cas, avec les massacres chimiques déjà de la Ghouta, peut-être même déjà avant, avec les massacres de Homs en 2012, mais on s'aperçoit que rien ne se passe. Donc menacer, je crois, sans agir, c'est probablement la pire des choses. Et c'est non seulement évidemment une faillite morale totale, vous avez rappelé les 500 000 morts, on pourrait parler des 12 millions de déplacés, environ 6 en Syrie et 6 à l'extérieur, tous ceux qui ont été torturés, les 20 ou 25 000 dans les prisons d'Assad, mais tout ceci, encore une fois, c'est complètement dérisoire par rapport à la réalité de l'action de ces massacres. Et c'est une faillite non seulement morale, je le disais, mais aussi stratégique.
Alors, on va y venir, à ce qu'il faudrait faire stratégiquement et puis sur le terrain, effectivement, comme vous dites. Un mot quand même, François Hollande qui signe cette interview dans Le Monde aujourd'hui. Je me sens solidaire et je me sens responsable, dit-il. Ce mot de responsabilité.
Oui, parce que je pense qu'il y a une responsabilité. Je crois que François Hollande a fait le maximum qu'il pouvait faire, sous réserve évidemment d'un certain nombre d'analyses militaires. est-ce qu'il pouvait seul intervenir en 2013 après qu'Obama lui ait signifié qu'il n'intervenait pas ? Je pense que c'était ça la vraie question. Donc il y a une responsabilité de la France, il y a une responsabilité de l'Europe. Je pense qu'il aurait dû y avoir une conscience plus tôt, François Hollande l'avait certainement, du danger que représentait la Syrie, la Russie, pardon, enfin aussi bien sûr le régime de Assad, je dirais, dans la région, mais quand même la Russie, qui a réussi en imposant sa loi dès 2012-2013 en soutenant le régime Assad, puis à partir de septembre 2015 en intervenant militairement en Syrie, a imposé en quelque sorte sa loi, qui est une loi du sang. Et j'en peux penser que s'il y avait eu une intervention d'ailleurs en 2013, probablement que l'invasion de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée ne se serait pas produite.
Alors il y a beaucoup trop de si, effectivement, forcément, voilà. dans cette guerre en Syrie. Il propose une zone d'exclusion aérienne pour qu'on puisse au moins alimenter cette zone, donc après Damas, de la Ghouta. On n'a pas besoin d'une résolution de l'ONU, hein, donc
non,
on
non,
devrait pouvoir
fois,
faire
je pense que
une zone d'exclusion
sûr,
aérienne.
Encore une fois,
c'est possible.
Oui, c'est tout à fait possible, et c'est quelque chose qui, encore une fois, a été évoqué déjà depuis 5 ou 6 ans. On y disait, si les avions ou les hélicoptères d'Assad décollent, il faut les clouer au sol. C'était quelque chose qu'on a évoqué en Europe, que des experts américains ont évoqué, ce qu'on appelle la no-fly zone, hein, zone de non-survol. Mais encore une fois, tant que l'on le disait mais sans l'appliquer, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec François Hollande quand il dit c'est toujours possible. Un certain nombre d'experts militaires américains, on pense notamment au général Petraeus, l'ont encore dit également récemment. Maintenant, encore une fois, il faut le faire.
Et qu'est-ce qu'on a, pardon, hein, de poser une question aussi naïve que ça, mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de mettre les avions au sol, sans donc une résolution de l'ONU, puisqu'on n'en a pas besoin, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'ouvrir cette fameuse no-fly zone ?
Rien ne nous l'empêche. Rien ne nous l'empêche. Et c'est ça qui est absolument terrible, parce qu'on sait très bien que si l'on était intervenu dès 2013, on aurait évité des centaines de milliers de morts. La non-action, ça se coûte en centaines de milliers de vies. Et qu'aujourd'hui encore, on peut sauver des milliers de vies. Parce qu'il faut bien savoir que tous ces réfugiés, tous ces gens de la Ghouta, après ils vont fuir sans doute vers Idlib quand la Ghouta sera prise. Et là, c'est aussi la mort qui les attend. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont la mort immédiate et dans l'autre cas, ils ont une mort différée. Donc évidemment, il faut agir. On peut le faire. Pourquoi on n'a pas besoin de l'ONU ? L'ONU est de manière bloquée par les vétos de la Russie au Conseil de sécurité. Donc il faut agir indépendamment de l'ONU.
Céline Schmitt pour l'UHCR. Vous avez des gens qui ont pu rentrer à la Ghouta pour voir quoi en ce moment, là, au moment où on se parle ?
Oui, nous avons notre représentant sur place qui a pu y aller. Il y a un convoi humanitaire qui s'est rendu sur place le 5 mars dernier pour apporter de l'aide. Et donc en revenant, il nous a parlé des visages qu'il a vus sur place et nous a dit que il n'a jamais vu des visages qui avaient aussi peur de toute sa carrière. Il a pu s'entretenir avec quelques personnes qui sortaient de caves où ils étaient cachés. Il a pu voir en fait les besoins immense d'aide humanitaire sur place, de l'aide a été donnée, mais ce jour-là, malheureusement, tous les camions n'ont pas pu être déchargés, donc toute l'aide n'a pas pu être donnée. Il y avait des combats qui étaient très proches. Le reste de l'aide a finalement pu être délivré le 9 mars, mais il y a besoin d'un accès humanitaire plus grand pour pouvoir apporter de l'aide à des femmes, des hommes bien sûr, mais aussi des enfants. Certains avait 8-9 ans.
Il y a un chiffre qui a été cité là qui parle d'un millier de personnes qui ont besoin d'être évacuées médicalement d'urgence.
Il y a aussi effectivement des besoins médicaux qui sont urgents, donc un besoin d'aide. Et effectivement, les personnes sur place nous disent que ce qu'elles veulent, c'est être en sécurité, donc pour sortir si elles peuvent sortir, mais avoir de l'aide.
Et alors sortir si elles peuvent sortir, effectivement, on a l'impression que c'est la stratégie d'Alep aussi, Nicolas Tenzer, vous allez peut-être pouvoir nous confirmer ça, c'est-à-dire on vide de l'intérieur, techniquement ils pourraient sortir à pied, sauf qu'ils ont peur de sortir à pied, on comprend pourquoi. Les Syriens séparent les civils des rebelles pour en envoyer certains dans une zone, d'autres dans d'autres, c'est vraiment la stratégie d'Assad ça, depuis le début dans chacune des villes encerclées.
Oui, et puis c'est aussi effectivement d'abord les retirer de chez eux, et les amener vers des destinations où ils risquent la mort. C'est quand même ça aussi la réalité. Et toutes ces évacuations, d'ailleurs on voit d'ailleurs un certain nombre de personnes dans la région de la Ghouta, ce sont aussi des gens qui pour certains venaient d'Alep.
Céline Schmitt justement, on citait le chiffre tout à l'heure d'une douzaine de millions de réfugiés, dont 6 qui sont effectivement dans des zones proches, on va dire, ça veut dire Liban, Jordanie, etc. Dans quelles conditions exactement ?
Alors oui, pour revenir très très rapidement sur les chiffres, effectivement, il y a tout d'abord 6 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de la Syrie. On estime à 13 millions le nombre de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire, mais aussi plus de 5 400 000 réfugiés dans les pays voisins, donc qui sont principalement en Turquie, mais aussi au Liban et en Jordanie.
Il faut rappeler, parce qu'on parle souvent de ceux qui essayent d'aller jusqu'à chez nous, puis il y a ceux qui sont entassés dans les pays limitrophes, effectivement.
La majorité des réfugiés se trouvent dans les pays voisins de la Syrie, et eux aussi ont besoin d'une aide humanitaire, sont arrivés maintenant dans une situation où l'espoir de rentrer chez eux n'existe plus. Beaucoup vivent dans des conditions très difficiles.
Il y en a qui en parlent de retour ou pas ? Ça paraît tellement surréaliste, mais est-ce que certains en parlent un jour ?
Il y a eu quelques retours spontanés de personnes qui sont retournées. Alors à la fois des personnes déplacées internes, mais aussi des réfugiés. C'est des chiffres qui restent assez bas pour l'instant. Pour nous, il faut une situation sécuritaire avant que le HCR puisse s'impliquer dans le retour. Mais pour revenir sur les conditions dans lesquelles vivent les personnes, donc les réfugiés vivent dans des pays qui accueillent donc énormément de réfugiés. Au Liban, par exemple, près d'un million de réfugiés syriens sont accueillis. En Jordanie, plus de 700 000. La majorité vivent dans des zones urbaines. Et on a fait une étude dernièrement sur les conditions de vie et sur la vulnérabilité. Et cette étude montre que 3/4 des réfugiés vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est-à-dire qu'ils vivent avec moins de 4 dollars par jour. Beaucoup vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. Donc certains ont moins de 3 dollars par jour. 43% des enfants ne vont pas à l'école, même si des efforts ont été faits pour permettre aux enfants d'aller à l'école primaire, mais encore les besoins subsistent.
Céline Schmitt et Nicolas Tenzer, je voudrais vous emmener dans ce qu'on dit être le pire camp. En fait, ça se passe dans le désert, on est entre les frontières syriennes et jordaniennes, il y a 50 à 70 000 personnes ici, une aide humanitaire qui est extrêmement restreinte parce que tout est contrôlé par les groupes armés. Le camp s'appelle le camp de Rukban, il est impossible d'y entrer et du coup c'est à distance, c'est grâce à Internet qu'Étienne Monin nous ramène ce reportage. Écoutez.
Rukban est une bulle, à la fois parce que ce camp est coupé de l'extérieur et parce qu'il est sous la protection d'armées plus ou moins puissantes. Rukban, c'est une lande de désert balayée par les vents, coincée entre le sud de la Syrie et la frontière jordanienne. Les réfugiés sont majoritairement des bédouins. Ils vivent pour la plupart maintenant dans des maisons en briques de terre coupées du monde, explique Abdul Fattah, directeur d'une école financée par une ONG.
Tout le monde a abandonné ce camp. Il n'y a pas de véritable approvisionnement pour l'aide. Il faut imaginer, il y a entre 70 000 et 80 000 personnes dans ce camp. Et on ne reçoit de l'aide que tous les 8 ou 9 mois. C'est pour cela que j'appelle cet endroit le camp de la mort. Donc les gens sont dépendants de ce que les familles qui sont à l'extérieur peuvent faire passer. Mais ce n'est pas assez pour répondre aux besoins en nourriture, en eau et en médicaments.
Il y a presque 2 ans maintenant, la Jordanie a fermé sa frontière. C'était après un attentat revendiqué par l'État islamique. Le camp est devenu une zone militaire fermée. L'ONU a dû composer avec les conditions du royaume de Jordanie. À Rukban, l'aide humanitaire arrive 2 fois par an. Elle est confiée à une milice armée. Elle passe la frontière tractée par 2 grues, raconte Nazi, dont le dernier enfant est né dans le camp il y a 1 an et demi.
Une fois, j'y suis allée et je les ai vus quand la grue a fait passer l'aide humanitaire du côté jordanien au côté syrien. À cet endroit, personne n'est autorisé à franchir la frontière jordanienne. Cela se passe juste entre les 2 frontières, ce qui veut dire que la grue fait passer l'aide depuis la Jordanie en Syrie.
Le sort de Rukban est intimement lié à l'engagement américain en Syrie. Ce camp est planté à quelques kilomètres d'une base militaire de la coalition côté syrien. Les Américains ont négocié une bulle de sécurité de 55 kilomètres qui englobe les déplacés, dit Abdul Fattah.
Les forces de la coalition sont installées dans une base militaire qui s'appelle Tanaf. C'est dans le périmètre des 55 km près du camp. Ils surveillent toute la zone avec un drone pour défendre cette zone. Et l'aviation détruit les véhicules et les convois suspects qui rentreraient dans cette zone.
mais le camp militaire de Tanaf a formé puis laissé dans la nature plusieurs milices rebelles. D'après Omar El Benahi, elles convoiteraient la principale richesse du secteur, l'aide humanitaire que l'ONU doit abandonner à la frontière jordanienne pour le camp de Rougban. Omar El Benahi parle au nom de certaines tribus du camp. Il est journaliste réfugié en France, très critique sur la façon dont les Nations Unies abandonnent leur aide aux groupes armés syriens chargés d'encadrer la distribution.
Ce qui les a fait descendre sur Rukban, c'est que les Américains leur ont proposé d'intégrer les forces démocratiques syriennes dans le nord. Mais ils ont refusé l'offre. La conséquence, c'est que les Américains leur ont coupé les aides financières, donc ils se sont repliés sur l'aide humanitaire. Et le camp est devenu un terrain de conflit entre milices. Elles ont oublié le combat d'origine et elles se sont lancées dans une compétition entre elles, sur le dos des pauvres réfugiés, pour mettre la main sur l'aide humanitaire. Les victimes, ce sont les femmes et les enfants.
Rougban est un camp hors normes. Les Bédouins ne peuvent plus remonter vers le nord tenu par l'armée régulière et leurs conditions à moyen terme ont peu de chances de s'améliorer.
Incroyable reportage dans ce camp complètement surréaliste, Nicolas Tenzer, quand on écoute ce reportage d'Étienne Monin.
Oui, c'est absolument monstrueux. C'est monstrueux parce qu'on sait aussi effectivement qu'il y a toutes ces prédations qui sont faites par le régime, par un certain nombre de milices sur cette aide humanitaire. Et je crois qu'il faut aussi voir aussi une chose. On parlait tout à l'heure de ce nombre incroyable de réfugiés en Jordanie, en Turquie, en Grèce, etc. Parfois, il y a des gens en Europe qui disent « oui, on va accueillir quoi, 10 000 réfugiés, voire 1 000 réfugiés ?» Et on voit un certain nombre de pays qui ferment leurs portes. Mmh. Quand on voit ce que ces pays, qui sont eux-mêmes les plus pauvres, accueillent dans de telles conditions, je trouve qu'il y a quelque chose de totalement indécent dans ce refus des Européens d'en accueillir plus.
Je voudrais revenir un instant sur ce que vous disiez sur la stratégie occidentale qui n'en a pas. Donc vraisemblablement, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire les choses clairement, cette guerre est en train de se finir dans un bain de sang épouvantable, mais elle est en train de se finir. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Quand on reparle de sanctions, est-ce que ça veut dire qu'il faut appuyer sur les Russes plus fort ? Comment ? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant ?
Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, la guerre n'est pas complètement fini, même si bien sûr on peut craindre que le régime Assad et ses alliés russes et iraniens reprennent la Syrie. Mais dans quelles conditions ? Ça ne veut pas du tout dire une condition de pacification. Il faut savoir aussi quand même que le régime Assad a fait quand même un certain nombre de compromis avec l'État islamique. Donc on va avoir une zone, je dirais, terrible aussi à gérer. Un État qui est un État totalement failli, voire un État démantelé. En grande partie, il n'y aura pas de sécurité. Et avec d'ailleurs tous ces enfants aussi qui n'ont pas d'éducation ou qui ont un ressenti terrible et justifié à l'égard des puissances occidentales. On se prépare aussi le terrorisme de demain. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, deuxièmement, que faire ? Je pense qu'il faut garder une pression, en tout cas, contre le régime. D'abord, ne pas céder sur la justice internationale. Il faut que les responsables, quels qu'ils soient, puissent être traduits devant la Cour de justice internationale. Deuxièmement, sur les sanctions, je pense que la Russie est un État qui est un État dangereux. On le voit là, on le voit en Europe, et je pense qu'il faut non seulement ne pas lâcher sur les sanctions qui existent déjà, mais en mettre d'autres avec des lois de type Magnitsky qui ciblent bien évidemment les proches de Poutine, mais il y a d'autres types de sanctions. Je pense qu'il y a une chose qui serait totalement indécente. C'est pour ça que j'appelle à un boycott. C'est la Coupe du Monde qui va avoir lieu en 2018. Mmh. Je crois que nous devons absolument
boycotter
cette Coupe du Monde. C'est une question de dignité. Penser que les clameurs des supporters puissent couvrir le silence, le cri des victimes, je pense que ça a quelque chose d'indécent. On ne peut pas faire du commerce avec la Russie, on ne peut pas faire des jeux avec la Russie comme si rien ne s'était passé et comme si des crimes de guerre n'avaient pas été commis.
Nicolas Tenzer, avec nous dans Un jour dans le monde, avec Céline Schmitt aussi, porte-parole du HCR en France. Merci mille fois. Merci à tous.
France Inter, Fabienne Synthès, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde est en Lituanie avec l'armée française et les soldats de l'OTAN pour assurer un pays que sa frontière avec les Russes encore rend plutôt très nerveux en ce moment. On suit des guépards dans sous les radars également. Trump, saison 2, Grégory Philips. Grégory, qu'est-ce que vous faites sur les sites de rencontres exactement ?
Il semble que ce soit de plus en plus compliqué les dates, vous savez comme on dit aux États-Unis, entre républicains et démocrates. Le pays est plus que jamais divisé, y compris sur les sites de rencontres.
Voilà, vous avez fait une enquête approfondie. Jean-Marc Faure, le monde à l'envers, vive le tsar, vive l'empereur.
Ah bah c'est une semaine faste pour les autocrates. Xi Jinping peut rester président à vie. Poutine va probablement être réélu pour un quatrième mandat. Donc oui, le tsar et l'empereur se frottent les mains.
Allez, un jour dans le monde, c'est pas fini. Le tour du monde de la planète passe par l'Arkansas avec Al Green sur France Inter.
We'll be right back. ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are growing, I'm going home. Baby, done wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back to my baby one more again. On a piece of paper, yeah. Wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Oh, oh, oh. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Yeah. Gotta have a ticket for an airplane. No, no, gotta get back and see my baby again. Oh, no, no. Lonely days ago, I'm going home. Baby done wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live, she couldn't live without me no more, without me no more, without me no more. Oh, oh, oh. Listen, mister, listen, mister.
Il s'appelle Al Green. Ça s'appelle The Letter et vous êtes sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Et Julie Pietri, le retour sous les radars. Julie, c'est le dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron en Inde aujourd'hui et vous nous emmenez voir les dessous de Varanasi, de Benares donc, ou comment une ville se refait artificiellement une beauté quand un président français vient précisément la visiter.
Varanasi, appelée aussi Benares, donc, est une ville du nord de l'Inde, 1 400 000 habitants et de sacrés escaliers, des escaliers de pierre qui se jettent dans le Gange, des escaliers que descendent chaque année des millions de pèlerins hindous.
Benares, Varanasi pour les Indiens, la ville la plus sainte de l'Inde, bâtie en amphithéâtre au-dessus du fleuve.
Emmanuel Macron les a empruntés, ces escaliers aujourd'hui, mais sait-il que ce qu'il a vu n'est pas tout à fait ce que voient ses habitants? C'est Libération qui raconte les dessous de Benares, comment, avant cette visite officielle, du goudron frais a été coulé des nuits entières pour recouvrir les nids de poules de la rue principale, comment des balayeurs aux gilets fluo ont nettoyé consciencieusement les quais, comment une couche de peinture a été appliquée ici ou là, l'eau du Gange qui semble morte, étouffée par les résidus industriels et les cendres des morts aussi, même cette eau paraissait moins trouble, la boue, les détritus ont été masqués opportunément le temps d'une visite grâce à un lâcher de barrage.
Allez, rien à voir. The tipping equation, comme on dit chez les Américains. Comment fixer la limite quand on est serveuse dans un restaurant et qu'on a besoin d'un tip, donc d'un pourboire?
L'histoire se passe aux États-Unis. Elle est sans doute par certains aspects universelle. C'est le New York Times qui a compilé une soixantaine de témoignages. Il n'y a jamais assez d'argent, raconte cette serveuse. Une autre, les trois quarts de mes revenus viennent des pourboires. Mais si tu ne souris pas, si tu n'es pas mignonne, tu n'as rien. Avec les hommes, tu dois faire attention. Tu ne peux pas être trop gentille ou trop sérieuse. Il a commencé à m'embrasser dans le cou, j'ai dû le repousser. Il m'a regardée et m'a demandé « pourrais-tu me monter comme un poney ?» Sur une vidéo de quelques minutes, ces femmes racontent leur quotidien et leurs difficultés à envoyer ces messieurs se faire voir quand leur fin de mois en dépend, quand leur salaire tout court en dépend. Souvent, racontent-elles, leurs managers, quand elles parlent de tout ça, ne font rien, mais certains ont mis fin au pourboire tout court dans leur restaurant en réévaluant les salaires. Traîne cette idée que quand on est serveuse, on doit être charmante avec tout ce que cela comporte. Ne dit-on pas d'ailleurs que le client a toujours raison?
Allez, des chiens pour faire peur aux guépards, ça se passe en Namibie.
Des chiens pour faire peur aux loups, on connaît, mais des chiens pour effrayer des guépards. Part, un félin puissant, l'animal terrestre le plus rapide du monde, 120 km/h en vitesse de pointe. Bon, et bien pourtant, ça marche. Il peut tuer les chacals s'il se rapproche du bétail, raconte ce fermier de Namibie. Mais pour ce qui est des guépards et des léopards, il leur fait juste peur et il s'enfuit. Il n'essaye pas de l'attraper. Vous vous doutez que ces toutous-là ne sont pas des caniches, non, ce sont des kangals. Non, mais ça, c'était un guépard.
Ah, pardon.
Les chiens, ce sont des kangals, des gros bergers d'Anatolie. 60 kilos, 80 cm au garrot. Et c'est une Américaine, raconte Le Monde, qui a eu cette idée. Laurie Marker, à la tête du fonds de conservation du léopard. Elle est partie d'un constat simple. Il reste environ 7000 léopards adultes dans le monde. Ils ont perdu près de 90% de leur habitat naturel. Et ils se frottent trop souvent aux chèvres, aux vaches des fermiers qui les tuent, les piègent ou leur donnent des coups de fusil, les tuent. Ce qui menace l'espèce encore davantage. Les repousser, c'est donc les protéger, dit-elle. Et les résultats sont surprenants puisque les premiers éleveurs qui ont accepté d'adopter un des chiens ont vu leurs attaques baisser de 80 à 100%.
Eh bien écoutez, formidable. Merci beaucoup Julie Pietri sous les radars dans Un jour dans le monde sur France Inter.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Lituanie que nous sommes. Vous l'avez peut-être déjà senti avec ce qu'on entend derrière nous. Nous sommes avec des militaires, des manœuvres bientôt. Depuis le début de l'année, 300 soldats français servent au sein du bataillon multinational de l'OTAN qui compte en tout 1300 soldats. Un déploiement décidé au sommet de l'OTAN de 2016. Bonjour Marielle Vituro.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir. Si on a déployé ces hommes, Marielle, c'est parce que les Pays-Baltes craignent pour leur sécurité en ayant face à eux une Russie qui, on le sait, est plus que jamais imprévisible. Du coup, autant prévoir le pire, c'est-à-dire une poussée russe en territoire balte. Et pour ça, il faut des gens en face. On écoute votre reportage.
Dès 8h du matin, les 300 soldats français que l'on présente uniquement par leur grade et leur prénom pour des raisons de sécurité s'affairent devant leurs blindés et leurs chars. Ils préparent les obus et les mortiers qui serviront à tirer contre l'ennemi. Ils vérifient leur matériel, le froid est vif, le vent cinglant et la couche de neige encore épaisse début mars sur la base militaire de Pabradé. Commandant Arnaud.
Nous sommes dans le cadre d'une manœuvre défensive où le sous-groupement tactique interarmes Lynx a reçu pour mission d'interdire l'accès à une ville, Pabradé en l'occurrence, afin de permettre à l'ensemble du dispositif AMI de se réarticuler.
Le lieutenant Pierre est chef de peloton. Suivant le scénario, c'est lui et les trois chars Leclerc sous sa direction qui vont détecter l'ennemi. Il attend l'exercice avec une certaine impatience pour trois raisons.
Premièrement, pour moi ici, là, c'est une première expérience opérationnelle. Travailler avec mes hommes en conditions réelles, à balles réelles, c'est quelque chose qu'en France, on n'a pas souvent l'occasion de faire. Dans un deuxième temps, c'est aussi travailler dans des conditions assez rustiques, le froid, le climat, et dans un troisième temps, travailler, donc je l'ai dit, dans un contexte international, par exemple, donner des ordres en anglais.
La frontière avec la Biélorussie n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de Pabradé. Derrière elle, les forces militaires russes de plus en plus concentrées dans la région. Mais l'exercice correspond tout à fait à la mission du bataillon de l'OTAN dans les Pays-Baltes, le lieutenant-colonel Martin, chef du contingent français.
Un scénario de manœuvre rétrograde, manœuvre défensive. Et c'est effectivement, ça correspond à la posture qu'on veut avoir ici dans la mission EFP, en particulier en Lituanie ici, qui est une posture non escalatoire. Et le fait de s'entraîner uniquement en manœuvre défensive permet d'afficher clairement cette posture uniquement de dissuasion.
Pour aider à ouvrir la voie aux chars, le génie néerlandais est venu en renfort. Une expérience inestimable pour Martin, chef de section.
Nous venons juste de mener une action pour brécher un obstacle. C'est la première fois ici que nous travaillons avec des tanks. Nous n'avons plus de chars lourds aux Pays-Bas. Donc c'est un vrai défi pour nous. Brécher un obstacle sur un champ de bataille, nous avons réalisé cette action plusieurs fois, mais sans le faire avec du matériel explosif. Cette fois, nous avons eu une détonation. Tout était nouveau pour nous.
« Dans un monde où les coalitions internationales deviennent le nouveau format des missions militaires, l'échange d'expériences est au cœur de la mission de ce bataillon multinational de l'OTAN. Et pour le lieutenant-colonel Martin, entre les Lituaniens et les Français, cela fonctionne plutôt bien.
Il y a un certain nombre d'échanges qui sont organisés, que ce soit des instructions, on va dire, techniques ou tactiques sur certaines procédures. Ils sont assez curieux sur l'emploi de certaines armes qui ne sont pas en dotation chez eux. Je pense notamment aux chars de bataille qu'ils ne possèdent pas. Je pense à certains segments du combat de l'infanterie, comme les tireurs d'élite, sur lesquels ils essayent de faire des formations. Et de leur côté, il y a un échange sur notamment comment vivre dans les conditions climatiques hivernales, comment se déplacer dans les terrains sablonneux et les tourbières, etc. Cette mission OFP nous sert également de laboratoire pour pousser un petit peu plus cette intégration multinationale.
La Lituanie est un petit pays situé à la frontière avec la Russie. Son armée compte près de 20 000 hommes. Cette mission de l'OTAN est vitale pour le pays. Giedrimas Jeginskas, vice-ministre de la Défense.
La dissuasion est la pierre angulaire de la doctrine de défense de la Lituanie, voire même de la région. Elle est plus que nécessaire. L'année dernière, nous avons été témoins des exercices militaires russes ZAPAD. Leur scénario était clair, il s'agissait de l'invasion des pays de l'OTAN. Depuis 2014, notre budget défense a doublé. 873 millions d'euros pour 2018. C'est une somme considérable, mais nous devons encore investir et à bon escient.
La Lituanie fait ses devoirs de classe, elle a récemment investi dans des véhicules blindés et un système de défense aérienne, mais beaucoup reste encore à faire, car la sécurité c'est aussi une affaire d'information, les médias multiplient les rubriques pour dénoncer les fausses informations fréquentes, c'est aussi une question de cohésion sociale, mise à mal par les écarts de salaire importants et une émigration encore forte.
Marielle Vituro en Lituanie pour Un jour dans le monde sur France Inter. On file aux États-Unis.
France Inter.
I will work so hard.
Pierre Veil.
I promise you it's going to change.
Un jour dans le monde.
Sinon, moi, c'est Fabienne Sintès, enchantée. Grégory Phillips, Trump, saison 2. Grégory, vous rentrez juste de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où votre président était samedi soir. C'était pour soutenir le candidat républicain à une élection sénatoriale qui a lieu demain mardi.
Oui, les élections de mi-mandat, vous savez, c'est dans 8 mois, en novembre, mais on aura un avant-goût demain avec cette élection pour désigner le sénateur de Pennsylvanie. Il faut remplacer Tim Murphy qui a démissionné après un énorme scandale ici. Ce républicain, connu pour ses positions anti-IVG, a demandé à sa maîtresse d'avorter, démission et donc élection. Ce qui est très intéressant, Fabienne, c'est qu'en 2016, Trump avait remporté la Pennsylvanie avec 20 points d'avance, mais là, le candidat républicain Rick Saccone est en difficulté face au démocrate Conor Lamb. On est en pleine ceinture de la rouille, en plein Trump Land, si j'ose dire, et donc on va évidemment surveiller de très près le résultat de demain.
Et oui, l'acier donc ici. Hein. C'est donc à Pittsburgh que Trump s'est rendu samedi soir pour soutenir ce candidat, et il était, comment dire, en roue libre, hein, Grégory.
Oui, c'est vrai, on a retrouvé le Trump de la campagne de 2016, plus candidat que président. D'ailleurs, il a dévoilé samedi soir ce qui pourrait être son slogan de campagne pour 2020, Keep America Great. Évidemment, ça rappelle quelque chose. Et il y a trois moments vraiment étonnants que je vais vous faire entendre ce soir. Le premier, quand Trump évoque le déficit commercial des États-Unis. Et là, eh bien, Donald Trump n'hésite pas à dégommer une icône du Parti républicain, le président Reagan.
Vous savez, on a un gros déficit commercial avec le Canada aussi. Et je ne leur en veux pas. Pourquoi est-ce que je devrais le leur reprocher? Parce qu'ils ont été plus malins que nos hommes politiques pendant des années. Et je ne parle pas d'Obama, là. Je veux dire tous, depuis Bush père et même Ronald Reagan. Franchement, vous vous souvenez? Je pense qu'il était formidable. J'aimais son style, son attitude. C'était un grand dirigeant pour le pays. Mais il n'était pas bon sur le commerce.
Deuxième moment de ce meeting et une proposition du président Trump sur la peine de mort pour les trafiquants de drogue.
The only way to solve the drug problem
La seule façon de résoudre le problème des drogues, c'est d'être encore plus dur avec les trafiquants. Quand vous en attrapez un, il faut l'éloigner pour longtemps. Quand j'étais en Chine et dans d'autres pays d'ailleurs, j'ai demandé « Monsieur le Président, est-ce que vous avez un problème dans ce pays avec la drogue ?» Et lui, « Non, non, non. » Mais moi j'ai pensé « Un grand pays, 1,5 milliard d'habitants, pas de problème de drogue ?» Alors je lui ai demandé « À quoi c'est dû ?» Et il m'a répondu « À la peine de mort. »
Enfin, Fabienne, un Trump outrancier quand il parle de Chuck Todd, l'un des journalistes politiques les plus connus du pays.
J'étais à Meet the Press, une émission présentée aujourd'hui par monsieur poche sous les yeux, Chuck Todd. Lui, c'est vraiment un fils de pute bien endormi, je vous le dis.
Voilà, comme ça, ça mérite d'être clair, vous me direz.
Il faut que je vous dise, Fabienne, que la foule adore quand Trump fait du Trump. C'était samedi soir en Pennsylvanie. Ce sera sans doute la même chose mercredi après-demain à Saint-Louis, Missouri, pour soutenir un autre candidat républicain.
Allez, voilà pour la politique. Mais parlons d'amour, vous et moi, Greg, s'il vous plaît. Même si parfois, ce sont politique et amour sont intimement liés. Allez savoir, particulièrement depuis que Trump est à la Maison-Blanche. Il faut nous raconter ça.
Oui, alors j'ai découvert ça dans le Washingtonian. Depuis que Trump a été élu,
Menteur,
la question politique...
Vous l'avez découvert sur les applis.
La question politique est devenue un enjeu essentiel pour les célibataires sur les sites et les applications de rencontres, de dating comme on dit ici. La première chose qu'on demande à l'autre avant de le rencontrer, c'est un, ses diplômes, mais en deux, désormais, c'est son appartenance politique, devant la profession en trois, et désormais sur Tinder ou sur The League, une appli de rencontre assez populaire ici mais que je ne fréquente pas. Dans sa bio, on met pour qui on vote. Assez clairement, démocrates et républicains ne veulent pas se rencontrer, même pas avoir une date comme on dit ici. Et dans la démocrate Washington, eh bien on apprend que ça devient très compliqué pour les célibataires républicains et supporters de Trump, voire impossible de décrocher un rendez-vous.
Mais là-bas, c'est une ouverture hein, pour celles qui nous écoutent et qui ont envie de partir aux États-Unis. Il y a du républicain à prendre. Et puis, vous, c'est votre métier, c'est de nous raconter tout le temps ce qui se passe autour de Trump. Grégory, histoire formidable pour terminer que quelqu'un qui fait exactement l'inverse.
Oui, alors c'est une histoire assez incroyable racontée par le New York Times. Il s'appelle Eric Hagerman, 53 ans, ancien cadre chez Nike et qui aujourd'hui vit dans une petite ferme du sud de l'Ohio. Et donc le 8 novembre 2016, eh bien Hagerman a décidé de tout couper. La radio, la télévision, les journaux, les réseaux sociaux. Au départ, ça devait être une pause de quelques jours et puis ça a duré. Et en fait, dégoûté par l'élection de Trump, Hagerman s'est dit qu'il n'avait plus besoin d'être informé. Ça veut dire qu'il n'est au courant de rien de ce qui se passe. Les tweets, Parkland, le travel ban, l'enquête russe, Kim Jong-un, Scaramouche, les poussiats, tout ça lui a complètement échappé. Le journaliste de New York Times qui a passé 2 jours chez lui avait dû promettre de ne lui donner aucune info. Les voisins, les amis, la famille d'Hagerman respectent ses vœux d'abstinence médiatique. Eric Hagerman, l'homme le plus ignorant d'Amérique, comme le décrit le quotidien. Faut juste qu'il nous écoute pas tous les lundis.
Mais on espère qu'il nous écoute pas, mais qu'il va remettre le poste très très vite. Merci beaucoup Grégory Phillips. On l'a tweeté, vous et moi, ce papier de New York Times. Si vous parlez l'anglais, c'est vraiment savoureux. Y compris effectivement les stratégies de contournement pour n'être au courant de rien. Grégory, merci mille fois.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Et Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers, comme tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, c'est une sorte de coïncidence de l'actualité, ça tombe plutôt bien, on va dire. En Chine, le président Xi Jinping a obtenu du Parlement ce qu'il cherchait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limitation de mandat. Après 5 plus 5 égale 10, il pourra aller jusqu'où il veut. Dimanche prochain, en Russie, Vladimir Poutine va décrocher un quatrième mandat. Ce sera sans difficulté. Donc, ce soir, vous dites, les régimes autoritaires, on le vend en poupe, vive le tsar et vive l'empereur.
Ah, le parallèle est saisissant. Entre le nouvel empereur de Chine et le nouveau tsar de Russie, les autocrates marquent des points. Commençons par le tsar. Vous serez à Moscou dans 3 jours, vendredi, Fabienne, pour nous faire vivre ces élections russes. Mais une chose est quasi certaine, vous venez de le dire, Vladimir Poutine devrait l'emporter dès le premier tour. Pourquoi ? Pour tout un tas de raisons. Il a muselé l'opposition et il n'a pas de concurrent. Il incarne une puissance militaire retrouvée avec des succès à la clé, notamment en Syrie. Il s'est entouré d'une garde rapprochée acquise à sa cause et il entretient savamment le culte de la personnalité. Même recette avec le nouvel empereur de Chine. Vous savez, tiens, combien il y a eu d'empereurs en Chine depuis Qin Shi Huang, 2 siècles avant Jésus-Christ?
Non, mais vous,
alors ça dépend selon. Ça dépend selon que l'on compte la totalité des différentes dynasties qui se sont parfois partagées le pays. Alors il y en a entre 280 et 380. Donc on peut dire que depuis le vote du Parlement hier, Xi Jinping peut devenir le 381e. Il peut rester au pouvoir indéfiniment avec les mêmes ingrédients que son voisin le tsar. Répression des voix dissidentes, création d'une garde rapprochée, puissance militaire. militaire, culte de la personnalité. Mais le pouvoir chinois a un atout supplémentaire, les succès économiques. Et surtout, il revendique la légitimité du pouvoir autocratique. C'est-à-dire qu'il conceptualise le fait que le capitalisme économique n'a pas besoin de la démocratie politique. C'est-à-dire que pour Pékin, les démocraties à l'occidental sont en perte de vitesse, elles sont inefficaces, elles constituent même une sorte de parenthèse dans l'histoire.
Et donc là, je vous vois venir, vous allez nous dire, ben en même temps, Pékin n'a pas tout à fait tort.
Exactement, vous lisez dans ma pensée. En tout cas, les démocraties occidentales vont mal. Leur porte-drapeau, on en parlait à l'instant, est devenu un président imprévisible et un peu clownesque. Hein, suivez mon regard, l'homme à la mèche, le sujet favori de Grégory Philips. On ne peut pas dire que Donald Trump soit une publicité vivante pour la démocratie. Les pays européens, c'est pas mieux. Ils sont pour la plupart dans les sables mouvants. La Grande-Bretagne enlisée dans le Brexit. L'Italie ensablée dans son éparpillement électoral. L'Allemagne à l'arrêt quand même depuis des mois, faute de gouvernement, du moins jusqu'à cette semaine. Et quant à l'Union européenne dans son ensemble, elle somnole. Du coup, CQFD, le modèle autoritaire russe ou chinois séduit, en Europe de l'Est, de la Hongrie à la République tchèque en passant par la Pologne, et en Afrique où les investissements chinois permettent à bon nombre de potentats locaux de conserver le pouvoir. L'autocratie, mesdames et messieurs, voilà un système efficace.
Donc, vous nous annoncez, Jean-Marc, merci de nous annoncer d'ailleurs, un monde russo-chinois pour l'avenir.
Bon, on n'en est quand même pas là parce que chez le tsar comme chez l'empereur, il y a un petit refus d'obstacle. Vous savez, c'est comme en équitation lorsque le cheval n'arrive pas à sauter. Je m'explique. Avec le tsar, le refus d'obstacle est économique. L'économie russe est fragile, croissance faible, revenus réels en baisse, infrastructures insuffisantes, entreprises peu nombreuses, état lent, inerte. Et dès que le niveau des matières premières, le pétrole, le gaz, est en berne, comme aujourd'hui, les ressources se cassent la figure. Poutine n'arrive pas à initier un nouveau modèle de développement économique. Chez l'empereur, le refus d'obstacles est plus culturel et diplomatique. La Chine ne veut pas assumer de leadership géopolitique alors que sa puissance économique l'y conduit tout droit. Et surtout, elle se refuse à développer ce que les anglo-saxons appellent le soft power, cette séduction culturelle, intellectuelle. Xi Jinping parle de rêve chinois, mais franchement, personne n'y croit. Et en Asie, du Japon à l'Inde ou au Vietnam, on serait plutôt du genre inquiet. Par-dessus le marché, le tsar et l'empereur ne sont pas copains-copains. Officiellement, tout va bien entre Moscou et Pékin. En réalité, c'est tendu, en particulier en Asie centrale, en raison du projet chinois de nouvelles routes de la soie. En fait, le tsar et l'empereur sont surtout d'accord sur une chose, mettre en pièces le modèle démocratique. Et ça doit suffire à nous inquiéter.
Comme vous dites, Jean-Marc Four, qui met le monde à l'envers tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. À tout de suite.